à toutes et à tous. Eh bien, nous remercions le Seigneur pour ce temps de repos, de partage et d'écoute. Rappelons encore et toujours que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le Sauveur, je suis au milieu d'eux. Je vous invite à vous lever pour invoquer le Seigneur avec le premier spontané que vous trouverez sur la feuille volante. Je vous invite à poursuivre notre louange en chantant le psaume 23. Prendre place. Écoutons comment le Seigneur veut être aimé. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car la loi se résume dans ce premier commandement : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici, dit Jésus, un nouveau commandement, mais qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Dans ta parole, ô Dieu. Reconnaissons notre péché. Pardonne-nous, Seigneur, car comme Paul, nous faisons si souvent le mal que nous ne voulons pas faire, et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos sagesses. Pardonne-nous d'avoir limité notre service à ceux qui nous plaisent et d'avoir négligé et rejeté ceux qui nous sont indifférents ou hostiles. Pardonne-nous. Et aide-nous afin que nous apprenions chaque jour à mieux t'aimer et mieux aimer notre prochain. Vers toi, j'élève mon âme. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'annonce du pardon. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance avec le cantique 266. 266, Jésus mon frère. moment d'ouvrir ton livre, Seigneur, nous te prions. Nous te prions de nous donner la foi et l'intelligence de ces textes que des hommes entre le Xe siècle avant notre ère et le premier siècle après la naissance de ton Fils ont rédigés, inspirés par toi, mais qu'ils ont pu percevoir et transcrire à travers le prisme des époques où ils vivaient. Permets-nous de percer le brouillard du temps. Je vous invite à écouter la lecture de trois textes de la Bible. Tout d'abord, dans le livre de Josué, chapitre 24, versets 11 à 13. C'est Dieu qui parle. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivé à Jéricho. Les maîtres de Jéricho vous firent la guerre. L'Amorite, le Périzite, le Cananéen, le Hittite, le Girgashite, le Hivite et le Jébusite. Mais je les livrai entre vos mains. J'envoyais devant vous les frelons qui les chassèrent loin de vous, les deux rois des Amorites. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous ai donné un pays où tu n'avais pas peiné, des villes que vous n'aviez pas bâties et dans lesquelles vous habitez, et des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et dont vous en mangez les fruits. Seconde lecture dans l'évangile de Marc, c'est un des textes recommandés ce jour. J'essaie toujours d'en prendre un. Alors, chapitre 9, versets 30 à 37. Parti de là, il traversait la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait : Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et lorsqu'il aura été tué, trois jours après, il ressuscitait. Mais ils ne comprenaient pas cette parole et craignaient de l'interroger. Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demandait : De quoi discutiez-vous en chemin ? Mais ils se taisaient, car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Jésus s'assit et il appela les douze. Il leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux. Et après l'avoir embrassé, il leur dit : Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. Et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Troisième lecture qui va faire l'objet de la méditation tout à l'heure, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Vous allez reconnaître, parce que c'est très connu, c'est ce qu'on appelle la parabole des talents. Il ne faut pas hésiter parfois à affronter des textes un peu complexes. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ces derniers et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en présentant 5 autres. En disant : Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit : Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. Son maître dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. S'avançant à son tour, celui qui avait reçu 1 seul talent dit : Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit : Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai pas et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais retrouvé mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a dit les 10 talents. Car tout homme qu'il a, on donnera et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, Jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Guide-nous par ta parole, aide-nous à la comprendre tant de siècles après, et qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. La parabole des talents, la dernière, la plus terrible, avant la trahison de Judas et le reniement de Pierre. C'est ainsi que s'exprime Jean Rochefort, qu'il se sent mourir dans le film Le crabe tambour de Pierre Schoendorfer. Il joue un officier de marine, vous vous souvenez du film, qui, sans une faute sur son passé, il aurait manqué de parole à l'autre officier, surnommé le crabe tambour. Alors en effet, cette parabole peut être qualifiée de terrible. Le troisième serviteur, il va finir en enfer, dans les ténèbres du dehors, avec les pleurs et les grincements de dents, sans avoir rien fait de mal, et même en réalité pour n'avoir rien fait du tout. Dans le film, le sens de la parabole est simplifié, la réflexion est centrée sur ce troisième serviteur. Qu'as-tu fait de ton talent ? Alors, le talent, c'est une mesure d'argent. Ça vaut, paraît-il, environ 15 000 euros. Et évidemment, on utilise le terme talent au sens de compétence, aptitude, moralité, qui est évoquée dans le film, un peu simpliste. Il faut exploiter ses dons, ses compétences. C'est pour ça qu'on ne parle que du cas du troisième serviteur et non pas de ce qu'ont gagné les deux autres. C'est évidemment plus compliqué que cela. Les paraboles sont, pour la plupart, très complexes, très compliquées. Lorsqu'elles paraissent simples, il faut se méfier. Jésus l'a dit souvent, en allusion à Ésaïe, « Je m'exprime en parabole de peur qu'ils ne comprennent et se convertissent. » Sous-entendu, avant l'heure de la résurrection, c'est ce qu'on appelle le secret messianique. Enfin, c'est lié au thème du secret messianique, comme lorsque Jésus demande à quelqu'un qui l'a guéri de ne pas aller en parler. Bon, seuls les apôtres, qui sont eux déjà convertis, ont le droit de comprendre, et Jésus parfois leur explique certaines de ces paraboles, qu'ils comprennent d'ailleurs souvent de travers. Et puis, cette explication un peu simpliste n'est pas très satisfaisante. Si quelqu'un a un talent, c'est-à-dire une aptitude à la dissimulation, à la manipulation, à l'escroquerie, est-il bien utile qu'il exerce ce talent ? Oublions le secret messianique, nous sommes déjà convertis en principe, on va essayer de comprendre un peu plus avant. Si cette parabole devait être prise plus ou moins au premier degré, on aurait pu s'attendre à un autre dénouement. Au retour du maître, le premier serviteur, qui était satisfait de ses cinq talents, n'a rien fait, donc exactement le contraire, et le troisième a péniblement obtenu un demi-talent de plus. Le maître, alors, aurait fait donner au troisième les cinq talents du premier. Situation totalement inversée. Ça aurait été redistributif, social, évangélique. Mais c'est trop attendu. Donc, ce n'est pas ça. Comment donc approcher cette anecdote surprenante et terrible autrement que comme un précis de gestion financière ? Vous remarquez que la façon dont les deux premiers serviteurs ont doublé leur avoir est à peine mentionnée. On ne sait même pas si c'est de façon honnête. Vous avez noté l'avant-dernière phrase, très étrange, « À tout homme qui a, on donnera et il sera dans la surabondance. Et celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. » J'y reviendrai parce que cette phrase est très curieuse. Cette sentence évoque des versets un peu ressemblants dans l'Évangile selon Luc. « À qui l'on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup. Et à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Jésus et Luc ne radotent pas, il y a deux propositions différentes. Dans un cas, on a donné, et dans l'autre, on a confié en gérance, si vous voulez. Il y a une différence entre un don, un cadeau et un mandat de gestion. Je me demande s'il n'y a pas là une clé pour approcher notre parabole qui n'est pas extrêmement claire sur ce point. Alors, les talents, évidemment, ne sont pas une somme d'argent, ce ne sont pas non plus une compétence, ça représente tout ce que le maître remet. Le maître, c'est Dieu, comme d'habitude. Et les talents représentent tous les dons de Dieu, argent, compétences, mais aussi en outre la vie, le pardon, la grâce. Prenons la première hypothèse. Les talents sont confiés en gérance aux serviteurs. Ils ne sont pas remis pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Ils sont remis selon un mandat pour qu'ils les fassent fructifier et les remettent au maître les remettre au maître à la fin. C'est tout à fait réaliste, logique et usuel. Tout ce qui nous est donné, nous ne le possédons pas vraiment. Nous ne l'emportons pas au paradis, un linceul n'a pas de poche. Vous connaissez ces expressions. C'est donc là une responsabilité, une charge, une mission. Dès le début, le maître remet des talents à ses trois serviteurs selon leurs capacités. Capacité à gérer, bien entendu. Ce qui prouve que le maître est bon juge des compétences, puisqu'il en a donné moins à celui qui n'en est pas capable. Mais celui qui est en mesure de gérer cinq talents va se retrouver à la fin de l'histoire avec 11 talents à gérer. Les cinq du début, les cinq qu'il a gagnés, et en sus, le talent du mauvais serviteur. Il va falloir qu'il gère plus du double de ce que ses compétences, en principe, lui permettent au début. Ce n'est pas un cadeau. C'est une prime ou une récompense, c'est une charge supplémentaire lourde. Je ne sais pas si c'est l'origine du principe de Peter. Ce premier serviteur va devoir faire bien plus en termes de gestion. Le double de ce qu'il a fait, et en sus ce que le troisième n'a pas fait. Ce n'est pas parce que certains ne font rien, que nous devons les ignorer ou ne pas nous en occuper. Le troisième serviteur n'a rien fait de bien. Le premier va devoir faire ce que le troisième n'a pas fait. Nous devons faire la part de travail, d'action, de ceux qui se laissent aller à la paresse, à la facilité, ou qui sont incompétents ou malchanceux. Dieu nous demande beaucoup. Le mauvais esprit y verrait de l'assistanat. Une remarque incidente sur le deuxième serviteur. On l'oublie souvent, il semble être là pour faire nombre. On a tendance à le négliger entre le premier et le troisième, qu'il arrive quelque chose d'important. C'est un peu comme dans les histoires drôles, vous savez, trois hommes sont dans un bateau, trois hommes sont dans un désert. Il y a toujours celui du milieu qui est là pour rallonger la sauce. Un peu comme Jack et William Dalton, qui sont coincés entre Joe, le petit méchant, et Avrel, le grand bêta. Maurice, qui dessinait Lucky Luke, reconnaissait que parfois il confondait Jack et William, puisque ce sont des personnages qui ne sont que des utilités. Ce deuxième serviteur, pourtant, est intéressant, plus intéressant que cela. Il a reçu deux talents, il en rapporte quatre. Il n'hérite pas du talent du troisième serviteur, puisque c'est le premier serviteur qu'il a. Il n'en est pas moins félicité exactement dans les mêmes termes que le premier. « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, viens te réjouir avec ton maître. » Pour Dieu, donc, ce n'est pas la qualité qui compte, ce ne sont pas les œuvres, tout bêtement, c'est la qualité, l'effort, l'intention. Prenons l'autre interprétation, les talents sont donnés définitivement en cadeau aux trois serviteurs. Ça paraît irréaliste, mais vous remarquez qu'à la fin de la parabole, ils ne sont pas restitués. Enfin, si le troisième le restitue, mais les deux premiers serviteurs ne semblent pas restitués. Ils présentent et ils gardent. Ils gardent les talents qui ont été remis et apparemment, ils gardent aussi le fruit de leur spéculation, de leur travail. Le troisième serviteur, donc le mauvais, rend au maître ce qui lui a été remis. Ben, je crois que c'est ça sa faute, puisque c'est un cadeau de Dieu. Il refuse le cadeau de Dieu, la grâce. Il ne fait rien de mal, mais il ne fait rien de bien non plus. Dieu nous demande d'agir, d'oser prendre part à sa volonté. Il demande d'accepter ses dons, d'en jouir sans culpabilité, de les faire grandir en nous pour qu'il y ait plus à donner à autrui. Vous avez noté l'excuse que présente le troisième serviteur. « Je sais que tu es un homme dur, » dit-il au maître. Une traduction, il y a âpre au gain. « Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. » Si on garde en mémoire que le maître dans les paraboles, c'est Dieu, ce troisième serviteur blasphème contre l'esprit, ce qui est le seul péché impardonnable, selon Marc. Il sera jeté en enfer dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ces reproches faits au maître, à Dieu donc, restent étranges. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé, etc. J'ai trouvé un précédent, je vous l'ai lu, c'est dans le livre de Josué, où l'Éternel se glorifie d'avoir donné à son peuple un pays où tu n'avais pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties dans lesquelles vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous mangez les fruits. C'est la conquête de Canaan, ça. Dans la dans le livre de Josué, juste après la traversée du Jourdain par l'armée de Josué. On voit que le troisième serviteur a visé juste dans sa description de Dieu, plutôt de sa conception de Dieu, celle du Premier Testament. Dieu, dans cette conception, c'est le Dieu du seul peuple élu. Il leur donne un pays, Canaan. Bon, il est pris à d'autres. Passons. Bref, le troisième serviteur a refusé le don de Dieu. Il n'a pas fait confiance à Dieu. La foi, étymologiquement, c'est la confiance. Il voit en Dieu un maître cruel et malhonnête. Ce n'est pas la paresse, son péché. C'est le rejet de Dieu. C'est ce qui explique cet étrange verset final. À tout homme qui a, on donnera, et il sera dans la surabondance. À celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Comment peut-on retirer à quelqu'un ce qu'il n'a pas? C'est que ce serviteur, il avait quelque chose. Le talent que Dieu lui avait donné. Il n'avait pas compris que c'était un cadeau. Ou alors il n'en a pas voulu. On lui retire ce qu'il avait parce qu'il ne savait pas qu'il l'avait et en tout cas l'a refusé. Donc en effet, on lui retire ce talent. Il ne l'a pas puisqu'il le refuse, mais on peut le lui retirer puisqu'il lui avait été donné. Nous avons tous des talents, des richesses, matérielles ou non. Il faut apprendre à les voir et reconnaître, construire dessus. Quelle est la bonne analyse? Les deux sont bonnes, bien sûr. Tout ce que nous avons dans la vie constitue à la fois une responsabilité et une grâce. Dans les deux cas, il faut en être conscient et utiliser ce que nous avons dans le projet de Dieu, sa volonté dynamique active, et utiliser ce que nous avons au service d'autrui, dans l'amour du prochain. L'amour du prochain, la redistribution, si vous voulez, c'est pas dans la parabole, c'est vrai. Mais les paraboles ne disent pas tout. Elles sont insérées dans un ensemble, celui de l'enseignement du Christ. Il faut donc savoir extrapoler un peu en les resituant dans les leçons de l'Évangile. C'est ça, accomplir la phrase de Charles Wagner. L'homme est une espérance de Dieu. Dieu nous a confié ou donné. Il espère que nous en serons conscients et redistribuerons à notre tour à nos frères en humanité. Amen. à vous lever pour écouter la confession de foi. C'est une confession de foi que j'ai trouvée un jour sur une feuille volante dans un recueil de chants. Je ne sais plus d'où il venait. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde, comme pour moi. Il est ressuscité. Il est présent pour tous les hommes et pour les servir. Il appelle son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes dans l'histoire pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, je ne crois ni à la fatalité de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort. Je crois que Jésus libère l'homme pour les décisions libres. Cela pourra prendre du temps, mais j'y crois. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Amen. Eh bien, je vous invite à vous asseoir. C'est le temps des annonces. Si monsieur le trésorier veut bien venir, nous tenir au courant.
Bonjour à tous. Les annonces pour la semaine. Comme tous les jeudis, le jeudi 23, nous avons la pause spirituelle de 12h30 à 13h30 dans le temple. Le groupe Évangile et Liberté se réunira samedi 25 à 10h30, mais par Zoom. Donc,
Michel, excuse-moi, je veux donner une information.
Mais vas-y.
Si certaines personnes ne font pas partie du groupe jusqu'à maintenant et qu'ils ont envie de venir, ils viennent me voir à la fin du culte en bas pour que je leur envoie le lien pour participer à la réunion.
Voilà, parce qu'effectivement, pour une réunion par Zoom, il faut un lien. Donc, les habitués reçoivent le lien automatiquement. Les autres peuvent demander à l'avoir. Le culte de dimanche prochain, le 26, sera présidé par notre présidente Valérie Laubry. L'école biblique aura lieu ce même dimanche 26. Comme tous les dimanches, vous avez la collecte alimentaire à la sortie où vous pouvez donner des produits soit d'alimentation soit d'hygiène qui seront donnés ensuite aux personnes qui en ont besoin. Je dois aussi vous parler un petit peu du dimanche suivant, le 3 octobre, où nous avons un culte qui sera présidé par notre pasteur Dominique Hernandez, mais qui sera orienté sur les problématiques de la création. Alors, vous savez que nous avons créé au sein de notre paroisse un groupe. Nous avons adhéré au mouvement Église verte, qui est un mouvement initié par plusieurs églises, Église catholique et les églises protestantes notamment. Cette adhésion nous amène à faire un certain nombre de réflexions. Alors, l'Église verte, c'est pas simplement économiser du papier en envoyant le bulletin par mail. C'est aussi quel est notre rapport à la création, et donc c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et donc ce culte du 3 octobre en parlera, et le groupe de réflexion sur l'Église verte se réunira d'ailleurs ce mercredi pour préparer ce culte. Que puis-je vous dire encore? Vous savez que hier, nous avons participé aux journées du patrimoine. Alors, de deux façons. La première, en faisant une opération porte ouverte de 10h30 à 16h. Nous avons eu quelques visites. Bon, nous avons eu, disons, un intérêt qui est à peu près proportionnel avec la visibilité de notre Église dans la société nouvelle, moderne. C'est-à-dire que quelques personnes se sont arrêtées pour voir. Mais enfin, bon, c'est déjà quelques personnes que nous avons pu toucher. De façon un peu plus, avec une assistance plus élevée, nous avons eu à 16h une série de conférences qui s'appelait Résistance et qui, en fait, mettait en lumière plusieurs femmes protestantes qui ont fait acte de résistance à un moment ou à un autre. Il y a eu, d'après ce que j'ai compris, puisque je n'ai pas pu y assister, 35 personnes environ qui ont assisté à cette conférence, cette série de conférences qui a eu lieu de 16h à 19h30, 20h, puisque apparemment il y a eu des discussions qui se sont poursuivies. Voilà. Dernière information que je vous donne. Certains d'entre vous savent que nous accueillons cette année dans notre appartement du 6e étage un pasteur, Marco Fornerone, et son épouse Ilaria, qui Marco vient ici pour participer à faire un travail de recherche à l'Institut de théologie de Paris. Et donc, nous l'accueillons de septembre à juin dans cet appartement. J'ai compris qu'il participerait de temps en temps à des activités de la paroisse. Donc, j'ai pensé que c'était utile. Nous avons pensé que c'était utile que vous le connaissiez. Donc, il est ici. Je vais lui proposer de venir dire quelques mots pour que vous puissiez le repérer et qu'il vous explique un peu plus qui il est. Marco.
Bonjour à toutes et tous. Merci de nous accueillir ici aujourd'hui et pour les mois qui viendront. Moi et ma femme Ilaria, nous sommes très heureux d'être ici dans cet beau temple, dans cette belle communauté, dans cette belle ville aussi et dans la belle position où on est. Donc on est vraiment... On rend grâce pour cette opportunité qu'on a reçue de cette année d'études et de faire cette expérience. Et donc, on attend beaucoup de vous rencontrer, de mieux nous connaître. Et donc, merci encore pour nous accueillir.
Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter ? S'il n'y en a pas, eh bien, en bon trésorier, je vous annonce que c'est le moment de l'offrande.
Tu as quelque chose ?
Oui, donc, je voulais rappeler que Nicole ne souhaite pas être applaudie à la fin du culte. Voilà, elle me l'a rappelé. Et donc l'offrande, allons-y. Pardon ? Oui, on y va. Alors, notre trésorier venant à vous annoncer l'offrande, je vous invite à vous lever. Et pendant l'offrande, nous chanterons le cantique 238, c'est un rempart que notre Dieu. Oh.
vous asseoir. Nous prions. Notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour ceux qui sont seuls. Conduis-nous à leur rencontre. Nous te prions pour les prisonniers. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous de leur offrir notre appui. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Inspire-leur de vouloir le bien du plus grand nombre et non celui de leur clan ou de leur parti. Et nous te prions, dans le secret de nos cœurs, pour ceux qui nous sont chers. Et nous voulons te redire tous ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Je vous invite à vous lever pour ce faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Nous allons quitter ce temple, retrouver la vie quotidienne, nos habitudes, nos joies, nos soucis. Annoncer partout la bonne nouvelle de la surabondance de la grâce, du pardon et du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur de la paix vous accompagne et vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Bon dimanche.